sens, j'ai vu comment bougent les choses, comment réagissent les gens face à leur présent. De toutes les rancunes, de tous les combats, j'ai compris les déclenchements. Des responsables, il y en a eu, oui, mais à chaque fois, ils furent suivis par des foules sur la mauvaise voie. Histoire de frontières, problèmes territoriales, disputes avec des frères, source de conflits raciales. Dans toutes les diagonales, ça tire en rafale. Le conflit est mondial et ça paraît normal. Tellement plus simple de faire parler les armes, à en croire notre histoire, les mecs qui trouvent plus de charme. La vie est longue, 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 pour celui qui passe entre les bombes. La vie est longue, 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 longue. Entre les bombes, la vie est longue, 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 longue. Dis-moi, elle ne serait dans le meilleur des mondes. Violence physique et morale, volonté de faire le mal. La sagesse recalée à l'écrit comme à l'oral, comme transpercée par une balle, sifflante comme le mistral. Dès qu'on crée un équilibre, on le brise comme du cristal. Aïe, 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 l'histoire n'a pas servi d'exemple. Malgré les résolutions, j'ai l'impression qu'on la sample. 2006, nouvelle ère, nouveau millénaire. Malgré les institutions, le monde est encore en guerre. Pour combien de temps et pour quel bilan? C'est bien inutilement que l'on instaure telle bagaille, on en oublierait quasiment que pour détruire une ville, il suffit d'un assaillant. La vie est longue, 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 pour celui qui passe entre les bombes. La vie est longue, 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 mais oui, dans le meilleur des mondes. Hey, la vie est longue, 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 pour celui qui passe entre les bombes. La vie est longue. Venir sur terre un jour, bienvenue. Mais fais gaffe à la loi, pas celle du plus fort, mais celle du plus sournois. La loi du plus riche qui achète ses combats. La loi du plus pourri qui truque ses résultats. La loi de celui qui écrit lui-même la loi. La loi du plus cruel qui vient ronger ses proies. La loi de l'homme de loi qui parle pour toi, qui édicte tes droits, mais qui ne te demande pas ce que tu en penses, toi. En somme, la loi du hors, la loi. La vie est longue, 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 pour celui qui
vous êtes avec Monsieur Mosquito, vous êtes en bonne compagnie. Moi, je vous souhaite un bon mardi.
Bonjour et bienvenue sur Bibliopotine, l'émission des médiathèques de Breteuil et de Verneuil en direct sur Principe Actif. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale qui va être consacrée au travail entre CDI et médiathèque. Déjà, bonjour JC, bonjour Jean et bonjour Virginie, notre invitée du jour.
Bonjour Guillaume.
Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Une petite pensée pour Frédéric du CDI du lycée de Verneuil qui malheureusement, avec un petit problème d'emploi du temps de dernière minute, ne peut pas nous rejoindre. Mais normalement, on refera une deuxième partie à cette émission plus tard la saison prochaine. Et on fera en sorte qu'il puisse être avec nous, donc on pense à lui.
Très bonne idée.
Au sommaire de cette émission, pardon Guillaume,
oui,
excuse-moi, je te relance même pas. Au sommaire de cette émission, Guillaume.
Oui, merci JC. Pas d'inquiétude, chers auditeurs, c'est la fin de l'année pour nous tous. C'est pas facile pour JC, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour Jean ni pour Virginie. Donc...
Ouais, mais si, ça va se faire tout seul
mais
quand même.
Mais ça va se faire,
ouais, carrément. Moi, j'ai hâte d'avoir le déroulé. Allez,
alors,
Guillaume, le déroulé.
Bon, déjà, on va rapidement représenter nos médiathèques, car ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. On va présenter Virginie, et ensuite, on va... lui demander un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un CDI et c'est quoi un prof documentaliste. Parce que je pense que beaucoup de gens sont encore un petit peu dans le flou par rapport à ça. Ensuite, on finira avec les coups de cœur et les annonces.
Très bien. Et j'ajoute que je suis en train de finir un déménagement, donc c'est un appel aux auditeurs.
À l'aide.
C'est ça, un camion pour Jean.
Et des bras.
Si quelqu'un a un camion et des bras pour Jean, il est preneur. Tu le disais justement en introduction, Guillaume, représentons les médiathèques et les particularités des médiathèques de Breteuil, là où tu officies, Guillaume, et celles de Verneuil, là où Jean travaille, bien entendu. Qu'est-ce que sont ces médiathèques? Quel rôle elles remplissent? Et puis la spécificité de chacune d'entre elles.
Oui. Donc la médiathèque de Breteuil donc, est située au 191 rue d'Argentan à Breteuil et est jouxtée avec l'association Le Parc, une association principalement destinée à la jeunesse, mais qui accueille aussi d'autres activités sportives. Et la médiathèque et l'association partagent les mêmes locaux. Donc nous, on est en train de se moderniser au fur et à mesure. On vient d'ouvrir une nouvelle section musique avec un rayon vinyle, une platine et le rayon multimédia, jeux vidéo et cinéma est en cours de construction et devrait être bientôt achevé, normalement cette semaine ou la semaine prochaine. Et donc on poursuit un petit peu ce genre d'action en ce moment autour du numérique.
La spécificité, c'est d'être accolé justement à un secteur jeunesse qui oui. amène beaucoup de jeunes jusqu'à vos rayons.
Voilà, notamment des jeunes du collège et du lycée.
Jean, de ton côté, la médiathèque de Verneuil a-t-elle des spécificités? Comment ça fonctionne tout ça?
Alors d'abord, la médiathèque de Verneuil a été construite un peu avant celle de Breteuil. Hein. Celle de Breteuil a été construite...
2011.
Voilà. Donc notre médiathèque est dans un bâtiment Renaissance de la fin du XVIe siècle. Alors évidemment, c'était pas prévu pour être une médiathèque, mais une maison de tanneur. Une très très belle maison. C'est un peu l'emblème de Verneuil-sur-Avre d'ailleurs. Petite cité de caractère. Dans les années 80, il a été décidé de faire de ce bâtiment une médiathèque, une bibliothèque d'abord, et on est arrivé au terme de médiathèque parce que justement on a intégré les différents supports multimédia. Alors aujourd'hui nous avons on est en train de tirer le bilan des dernières années où on a mis beaucoup l'accent sur les animations pour la jeunesse, pour les adultes, et où on a beaucoup ouvert nos murs à des associations pour faire vivre notre lieu. Et donc on est en train de tirer le bilan de tout ça, qui avait commencé avec Anaïs Leblon, qui était venue un peu avant moi, mais qui n'avait pas eu de chance parce que c'était les années Covid. Et donc moi, j'ai continué dans ce chemin-là. Et maintenant, on va chercher à définir un nouveau projet pour notre lieu, pour continuer à avancer, sachant que on a beaucoup avancé pour ouvrir notre lieu à de nouveaux usagers. Voilà.
Voici pour les présentations. Et donc là, on voit comment fonctionnent deux médiathèques. Mais on a la chance d'avoir avec nous en invité une professeure documentaliste. Et ça, c'est important parce que parfois, on entend, c'est la dame du CDI ou le monsieur du CDI. Et vous êtes professeur documentaliste, de vrai professeur, en fait, dans un établissement scolaire, là, en l'occurrence, au collège de Breteuil. Breteuil. Quel est un petit peu le fonctionnement et la particularité d'un CDI ?
Alors, effectivement, dans le nom de notre métier, il y a le mot professeur. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence essentielle avec les autres lieux du livre. C'est que nous, on a une vocation, notre vocation première, c'est l'enseignement. Donc, même si un CDI possède un grand nombre de livres et incite à la lecture plaisir, à la détente, c'est quand même un endroit où le professeur documentaliste, ou la professeure documentaliste, d'ailleurs, parenthèse, je suis la seule représentante des CDI et je suis une femme, peut-être que c'est significatif. Et effectivement, je pense que c'est un métier qui est très, très féminisé, un peu comme tout l'enseignement, d'ailleurs. Donc, en fait, notre vocation première, c'est d'éduquer les jeunes, les collégiens. On les forme à l'EMI, c'est-à-dire l'éducation aux médias et à l'information. Et cela passe donc par un grand nombre de missions qui nous sont confiées, qui sont d'ailleurs assez floues et assez vagues, contrairement à nos collègues qui ont des référentiels, des programmes. Nous n'en avons pas. Ça nous laisse une grande liberté d'enseigner comme on l'entend. Et déjà, il faut attirer les élèves et les enfants vers les livres, ce qui me paraît fondamental. Il y a un grand nombre d'élèves de 6e aujourd'hui qui n'ont jamais ouvert un livre documentaire. Donc déjà, leur apprendre à manipuler les livres, à les regarder, et l'idéal, ça serait à les aimer. On leur apprend aussi à se méfier des informations qu'ils peuvent trouver sur Internet. On fait beaucoup de radio, et notamment ici, on a la super chance d'avoir des amoureux, des professionnels de la radio. Donc il y a Guillaume, évidemment, il y a JC, bien sûr. Et ça, c'est une ouverture très utile et très importante pour nos élèves.
C'est la pratique, au-delà de découvrir dans les livres ce qu'est l'éducation aux médias, c'est pratiquer aussi le média, pratiquer, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ça dans un établissement scolaire, c'est-à-dire de mettre en œuvre les apprentissages.
Alors, on essaye au maximum de mettre en œuvre les apprentissages. On a à cœur, on l'a fait plusieurs années de suite, on participe au concours de Une, qui est proposé par le CLEMI, donc c'est un concours national, et les élèves ont choisi une classe, et on se retrouve en vase clos pendant une journée entière, et on fait, en temps décalé, puisqu'on ne peut pas travailler la nuit comme les journalistes, mais on conçoit une à partir des dépêches de l'AFP, les mêmes que celles des vrais journalistes, et ça, c'est une mise en pratique qui est remarquable pour les élèves, et qui leur donne vraiment une bonne idée de ce qu'est la conception d'une une, la rédaction, la réflexion sur les sujets. Parce que la radio, ça met en œuvre énormément de capacités en amont. D'ailleurs, ils en souffrent un petit peu parce qu'ils s'aperçoivent qu'il faut réfléchir, rédiger, structurer. Et finalement, ça rejoint les autres apprentissages qu'on leur demande. Alors, je voulais aussi insister sur le fait, et c'est surtout en entendant Guillaume tout à l'heure que l'idée m'est venue. Guillaume et puis même Jean parlent d'animation. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus ludique dans la construction d'un projet de médiathèque par rapport à un projet de CDI. Nous mettons en avant d'abord l'apprentissage et le travail. Et j'insiste et je refuse que les élèves s'amusent, jouent sur les ordinateurs. Et ça, je l'interdis totalement. Donc l'utilisation des ordinateurs est très réglementée. C'est destiné au travail. Et voilà, priorité au travail, même si la lecture, c'est l'axe fondamental qui me tient à cœur. Voilà.
C'est quand même, de toute façon, un lieu contraint d'apprentissage. C'est le collège, hein, en l'occurrence pour le CDI, en tout cas pour le tien, de CDI, c'est en collège. C'est un lieu d'apprentissage avant tout, bien entendu. Sur ce lieu qui est un peu particulier, parce que c'est pas une classe en fait, toi ta classe finalement c'est une bibliothèque au sens plein de livres et plein de documents. C'est quand même un cadre plus agréable pour travailler. Est-ce que tu as des retours parfois ou une sensation que finalement les élèves l'abordent différemment qu'un cours autre type français, histoire géo ou autre?
Oui, bien sûr. Déjà le cadre, mon CDI est très grand, très lumineux. Il y a différents pôles, différents secteurs, et c'est aussi un lieu d'autonomie. En fait, j'ai l'impression, on pourrait peut-être dire que c'est un lieu intermédiaire entre l'espace collège, salle de cours, salle de classe, salle de travail et médiathèque, parce que c'est un lieu où la particularité, c'est qu'il y a plusieurs groupes d'élèves qui viennent, plusieurs personnes qui travaillent sur des sujets différents. Il y en a qui lisent, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent en petits groupes. Et ça, ça leur apprend l'autonomie. C'est une sorte de lieu intermédiaire. C'est un lieu un petit peu unique dans un collège, puisque c'est un lieu où, effectivement, il y a moins de pression, il n'y a pas la tension qu'on demande à des élèves en classe. C'est un lieu de diversité, finalement, et d'autonomie. Et ça, je pense que c'est agréable. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui sont des fidèles, qui viennent tout le temps. Mais il faut dire aussi qu'il y a des élèves réfractaires, parce qu'on exige d'eux le silence, effectivement. J'ai mes collègues qui présentent le CDI aux petits sixièmes qui arrivent et qui leur disent « Attention ici, vous franchissez la porte du silence ». Effectivement, c'est un lieu où tout le monde doit travailler tranquillement. Et moi, je ne suis pas comme mes collègues qui surveillent des permanences. Je les surveille, je les accompagne et je les aide s'ils me demandent, mais je travaille en même temps. Donc je ne peux pas accepter qu'il y ait des débordements et que je sois obligée de faire la police. Donc c'est un lieu privilégié, à mon sens.
Il y a une complémentarité entre la vie en médiathèque et la vie en CDI, parce que on l'évoquait tout à l'heure, Guillaume a beaucoup de jeunes du secteur jeunesse de l'association du Parc, qui sont eux-mêmes élèves bien souvent au collège de Breteuil pour une bonne partie, mais sur d'autres collèges. Ils fréquentent un CDI, ils fréquentent une médiathèque. À quel moment finalement on vient en complémentarité et pas juste à renourrir un amoureux du livre?
Ah, ça c'est la grande question.
Je fais pas que des questions faciles. Hein.
Oui. Non, la chose la plus basique, c'est, Virginie, ça pourra le dire aussi, c'est par rapport aux dévoreurs de livres, déjà, quand ils ont besoin d'exemplaires pour lire les ouvrages sélectionnés. Nous, on en a un certain nombre, au CDI aussi. Et donc, suivant la disponibilité, ils viennent les emprunter au CDI ou chez nous. Il y a ça, déjà. Il y a aussi, de façon plus basique, des passionnés de lecture. On en a quand même quelques-uns qui ne trouvent pas forcément ce qu'ils cherchent au CDI, parce que il y a des contraintes au CDI que nous, on n'a pas forcément ici. Déjà, rien que, on va en reparler tout à l'heure, des questions de budget aussi, de trouver des romans, entre guillemets, adultes, donc, qui ne trouvent pas forcément un CDI. Je sais qu'on a des collégiens et des lycéens qui lisent, par exemple, du Michael Connelly et des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouve en CDI. Virginie, je ne pense pas que tu en aies. Donc, non, voilà. Non. Donc, quand ils souhaitent lire ça, voilà, c'est pas non plus des trucs hyper sordides. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on peut leur proposer aussi. Et Jean voulait intervenir.
Oui, parce que c'est là que Frédéric Jurzik va nous manquer, parce que Frédéric Jurzik est CDiste prof-doc dans un lycée. Et j'ai pu voir son lycée. Il y a une diversité dans les collections. On peut trouver des policiers aussi dans un CDI ou au lycée. Michael Connelly ne serait pas incongru en tant que bon auteur de romans.
On est sur un public déjà un petit peu plus adulte. Voilà. On est sur les plus de 15 ans.
Et puis la scolarité est volontaire à partir du lycée, alors qu'au collège, l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans.
Après, je pense qu'on a une mission quand même, par rapport aux collégiens notamment, de conseil. Et il y a des livres qu'on ne peut pas, nous en tant qu'enseignants, se permettre de leur mettre entre les mains. Je crois qu'on en a déjà parlé.
Par rapport aux thématiques, par rapport à l'écriture
Alors, par rapport à différentes choses. Alors, effectivement, quand il y a des élèves qui choisissent le livre le plus fin, le plus petit possible, et qui tombent par malheur sur un cœur simple, c'est tout petit, mais c'est très, très difficile à lire. Donc là, on leur dit non, ça, c'est pas pour toi, il faut que tu choisisses autre chose. Donc, on les guide dans leur lecture pour qu'ils ne se découragent pas en ayant choisi quelque chose qui leur convient pas. Et puis, il y a aussi un certain nombre de sujets sujets, de thèmes que moi je me refuse de prescrire aux élèves. Il y a aussi en fonction de l'âge. Donc je m'efforce de lire à peu près tout ce que j'achète. Surtout si c'est des sujets un petit peu compliqués qui peuvent plutôt intéresser et concerner les grands, on va dire les 4e, 3e. Donc ça, j'y fais attention. Et puis, il y a tout le problème de la dark romance, hein, actuellement. Et moi, ça, s'ils viennent au CDI avec leur propre livre, qu'ils le lisent, je les laisse faire. Mais je n'en ai pas dans mes rayonnages et je ne les incite pas à lire ce genre de choses. Là, il y a la mode de la femme de ménage. Je ne sais pas si on peut citer
ce livre. On peut tout dire.
La femme de ménage, je l'ai lu et j'estime que ce n'est pas un livre pour des adolescents. Avec des scènes de torture, des scènes assez violentes. Et je pense que c'est... Bon, ça se lit facilement, effectivement, mais c'est pas pour eux. Ils ont tellement mieux à lire, tellement mieux à découvrir que...
Ça s'adresse directement aux adolescents. Oui. Tout de même, ce type de littérature, là, tu évoquais la dark romance, ça s'adresse de manière assez inadaptée à un public
c'est
adolescent.
Très ciblé ado.
Alors, il y a aussi le business derrière. Voilà, je pense qu'il y a, un besoin, sans doute, des éditeurs de gagner de l'argent. Après, moi, je suis là pour leur faire découvrir des textes de qualité. Voilà.
Donc, avoir une exigence dans la proposition.
Une exigence.
Ce qui n'est pas exigeant, ils découvriront ailleurs. C'est ça
exactement,
l'idée.
Exactement. C'est ça l'idée. Après, pour en revenir à ce qu'on disait, grâce à Guillaume d'ailleurs, on a réussi à établir un partenariat et on travaille beaucoup ensemble. Je viens tous les débuts d'année avec tous les sixièmes ici en visite. Donc Guillaume leur fait découvrir la médiathèque. Moi, je leur donne des fiches d'inscription s'ils veulent s'inscrire. Donc on partage, notre public est partagé et on arrive à faire pas mal de choses ensemble. Hein. N'est-ce pas Guillaume, t'es d'accord?
Oui.
Et encore là, on est en train d'organiser quelque chose pour des 4e, 3e.
Un podcast pour le prix des dévoreurs de livres. Donc ils ont interviewé une des autrices des dévoreurs et ce sera diffusé le 3 juin à l'hôtel du département.
Non, on travaille beaucoup ensemble et c'est très bien. Et d'ailleurs, je lui demande souvent des livres pour mes élèves. Enfin, on a vraiment des échanges.
C'est la fameuse complémentarité entre un service scolaire d'enseignement à travers les documents et le livre et un service qu'on va axer sur la culture, d'ailleurs sur les deux, mais plus sur le loisir au niveau de la médiathèque.
Voilà. Oui, bah Virginie, par exemple, nous a aussi fait un peu de publicité quand les instruments de musique ont été mis au prêt par la médiathèque du département il y a quelques mois de ça.
Mais c'est compliqué d'installer un partenariat. Moi, depuis 20 ans que je travaille ici, c'est depuis que Guillaume est là qu'on a réussi, franchement, à tisser des liens lentement. Et puis on fait de plus en plus de choses et c'est très constructif pour nos élèves.
Jean?
Oui, alors à Verneuil, c'est un peu plus compliqué. Au niveau du collège, nous, c'est surtout au lycée qu'on a des perspectives. Mais tout de même, au collège, on reçoit régulièrement une classe de SECPA. Soit pour visiter une exposition, soit pour assister à une projection. Alors c'est très ponctuel, ça arrive peut-être une à deux fois par an, mais ça marche bien et les SECPA sont vraiment très très contents de profiter de nos locaux, de poser des questions sur une exposition photo animalière, sur un documentaire qui présente une forêt primaire. Qu'est-ce que c'est une forêt primaire, la faune, la flore? Donc ça c'est ce qui marche bien. On a eu l'idée, alors on pourra en discuter, d'aller au collège pour animer un club qu'on appelait un club pop culture. On a fait cette expérience au CDI du collège, mais on s'est rendu compte que comme on voulait partir des goûts des collégiens, finalement ça a tourné assez vite en rond et on est tombé d'accord sur le fait que si on renouvelait l'expérience, ce serait un petit peu plus dirigé, dans le sens où on proposerait davantage de titres plutôt que de partir des goûts des collégiens. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Quoi.
C'est toute la difficulté quand on est jeune et qu'on a, on va dire, exploré qu'un champ limité du possible de partir de là-dessus pour pouvoir découvrir. Peut-être qu'à ce moment-là, le rôle effectivement de l'encadrant, c'est de les amener sur des terrains inconnus pour pouvoir découvrir. J'avais une idée qui vient de m'échapper, c'est terrible. Ça, si, quand on parlait, je me permets de revenir deux secondes en arrière et de profiter un petit peu du regard de Virginie, professeure documentaliste en CDI. Tu évoquais la dark romance comme étant une littérature qui avait peu ou pas sa place en CDI, en tout cas dans la proposition. Est-ce qu'on n'est pas sur un débat maintenant qui est passé, qui était celui du manga aussi, qui a été difficile à mettre en rayonnage, même en médiathèque, tout court, à une époque, parce que une production énorme est difficile de faire le tri, peut-être pour des encadrants moins aguerris sur ce type de littérature. Là, je fais le parallèle peut-être un peu avec les mangas. Peut-être que je me trompe.
Alors. Par rapport au manga, moi je ne suis pas lectrice de manga, c'est sans doute lié à ma culture et à mon âge, et j'ai pas envie de m'y mettre. Néanmoins, j'ai fait partie des premiers CDI à en acheter, et en acheter massivement, et j'en ai beaucoup. Pour moi, la lecture des mangas, c'est une forme de lecture complètement différente qui met pas en jeu les mêmes processus intellectuels, mentaux, et je pense que les scénarios sont très très bien ficelés, je pense que c'est intéressant. Maintenant, pour moi, il n'y a pas assez de texte et de lecture. Et moi, je laisse les élèves lire autant de mangas qu'ils veulent. Je ne les empêche pas. Mais j'essaye de leur faire lire autre chose et de les amener vers des lectures au long cours, on va dire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du quart d'heure lecture qu'on a instauré il y a quelques années au collège, au début, j'insistais pour que les élèves prennent des petits romans ou même des nouvelles pour qu'ils lisent, et mon objectif, c'était qu'ils lisent chaque jour un quart d'heure et qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont lu la veille et qu'ils continuent leur lecture. Mais le problème, c'est que mes collègues ne sont pas d'accord avec moi et se disent, pourvu qu'ils lisent, ils peuvent lire n'importe quoi, une page de Titeuf ou une page de manga. Et ça, je trouve ça dommage, parce que pour moi, le quart d'heure lecture, c'est pour les tirer vers le haut, les amener vers des lectures plus complexes petit à petit. Alors que les mangas, ils peuvent très bien le faire tout seuls.
Et ils le font plutôt bien. Hein. D'ailleurs, en général, je ne sais pas s'il y a des chiffres ou pas, mais en tout cas, les jeunes lisent énormément. Enfin, le manga, c'est quelque chose qui est énormément lu par les jeunes.
Le manga est énormément lu par les jeunes. Et moi, je constate parmi mes lecteurs que les élèves, des très bons élèves, des élèves qui ont la capacité de lire des choses complexes, sont souvent des très, très gros lecteurs de mangas. Donc moi, je ne considère pas du tout le manga comme une sous-littérature. Je pense que c'est une autre lecture, un peu comme la bande dessinée, qu'elle a toute sa place dans un CDI. Et j'encourage les élèves à en lire. Maintenant, pour les choix, je me fie au conseil des élèves en partie. Et puis, je regarde pour ne pas acheter n'importe quoi non plus.
Mais c'est toute la difficulté